jusqu'à 9h, mettez-vous au vert. C'est Jardin Bleu avec Philippe Munier.
Le Jardin Bleu, c'est avec Philippe Munier. Je rappelle le principe de cette émission. Si vous venez de nous rejoindre en Bretagne, vous pouvez nous appeler au 02 99 67 35 35 pour poser vos questions concernant le jardin, que ce soit le potager, les fleurs, les fruits, les légumes. Et Philippe Munier, c'est notre excellent jardinier qui a réponse à tout. Et c'est jusqu'à 9h sur France Bleu Armorique.
Jusqu'à 9h sur France Bleu Armorique, notre expert jardin est là pour vous.
Philippe, bonjour.
Bonjour Félix, bonjour à tous.
Vous allez bien avec cette petite grisaille sympathique qui laissera place au soleil, Philippe?
Au soleil peut-être.
Ah non, vous n'y croyez pas trop?
Non, je ne sais pas. Vous savez, quand elle est bien installée comme ça, c'est nos voisins grands bretons qui nous les envoient, ces petits nuages-là.
Oui, ils nous ont toujours embêtés un petit peu.
Je ne sais pas s'ils veulent les récupérer. C'est pas sûr. On verra bien.
Ah, vous restez un peu défaitiste, là. D'accord.
Voilà. Mais non, moi, ça me va tout à fait. Personnellement, je n'aime pas quand il fait trop chaud. Et puis, mes plantes non plus. Alors, toute cette humidité, ce petit crachin très, très léger, les plantes, elles le boivent, elles l'aspirent par les feuilles. Elles se régalent. Elles vibrent de plaisir en ce moment. Donc, moi, personnellement, ça gâche pas mon plaisir du tout, hein. Mais bon, c'est pour ceux qui veulent aller sur la plage, là effectivement c'est un petit peu moins sympa. Donc je voulais juste revenir sur un truc, je ne réponds pas à toutes les questions, heureusement, parce
oui,
que si je répondais à toutes les questions, c'est que je serais tout, et ça serait vraiment, vraiment très ennuyeux.
Eh bien bravo pour votre simplicité et votre qualité, Philippe. Alors, on l'a dit, cette petite brume du matin, elle est très importante, et vous nous le disiez dimanche dernier, c'est peut-être l'heure qu'apprécient les jardiniers, là, quand il fait bon le matin d'aller faire le tour du jardin, c'est peut-être l'un des meilleurs moments.
Ah oui, moi c'est vraiment le moment où je me régale. Effectivement, il y a un petit peu de rosée, mais c'est pas grave. On n'a qu'à mettre des bottes et un pantalon si on n'aime pas avoir les pieds mouillés. Et puis de toute façon, avoir les pieds mouillés, c'est très très agréable aussi si on aime ça. Et faire le tour du jardin, sentir la végétation qui se réveille, voir les fruits se développer, les fleurs se développer. C'est vraiment un moment que j'adore. Mais comme j'aime aussi le faire le soir, à la limite, je me demande de quel moment je préfère.
Très difficile.
J'aime bien les deux, peut-être.
On a eu une question dimanche dernier. J'ai promis à la personne qu'on allait y répondre. C'était, alors je pense, moi, je ne suis pas un grand jardinier, je pense avoir la réponse, mais pour la taille, est-ce qu'on peut attaquer la taille des pommiers, notamment juste après la récolte des pommes, c'est-à-dire assez rapidement, ça va être début peut-être septembre ou mi-septembre. Est-ce que c'est trop tôt, Philippe?
Alors, ça dépend ce qu'on fait. Déjà, première chose, on n'est pas obligé de tailler. Je rappelle quand même que la taille, c'est juste une invention humaine. Il y a une nouvelle école depuis, on va dire, une quarantaine d'années qui propose de conduire les arbres fruitiers, non plus de les tailler. Alors, la conduite de l'arbre fruitier, ça fait intervenir d'une part une réflexion. On ne suit pas un planning établi depuis trois siècles et à la lettre. Mmh. On réfléchit. Chaque végétal, comme chaque être humain, est unique, et donc chaque végétal doit être traité de manière unique. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on essaye d'éviter le maximum l'utilisation du sécateur, parce que dès qu'on fait une coupe, on fait une plaie, ça risque de s'infecter, donc il y a un risque d'infection, il y a un risque de dommage pour l'arbre, et puis en plus, en conduisant, en allant avec la nature et non pas contre elle, eh bien, ça permet d'avoir des meilleures productions. Donc le but du jeu pour un arbre fruitier, c'est d'avoir des meilleures productions. Donc faites attention déjà à cette notion de taille, moins on taille, mieux c'est. Mais par contre, du coup, on taille beaucoup mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la période de taille est passée au mois de septembre. Il y a deux tailles. Il y a une taille pendant l'hiver, qui est vraiment la taille de fructification. Et puis, il y a une taille de complément qui va faire grossir le fruit et qui va permettre à l'arbre de se préparer pour la récolte l'année suivante, qui elle, est ce qu'on appelle la taille en vert, qui elle a lieu en juin, juillet, suivant les années.
D'accord. Et alors Philippe, mais si ce pommier vraiment a ses branches qui traînent presque par terre, là, on a quand même
un petit... Eh ben on fait ça tranquillement, mais on fait l'hiver.
D'accord, l'hiver, d'accord. Dans un instant, nous accueillons Michel. Juste avant cela, on retrouve l'info en titre avec Théo Hetch.
Le feu est sous contrôle, assure le maire de Cana, dans les Bouches-du-Rhône. Sa commune est menacée par des feux de broussailles. Plusieurs incendies occupent les pompiers de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Plus de 700 hectares sont partis en fumée. La ligne TGV Paris-Marseille a dû être coupée hier soir. Le trafic a repris ce matin. Emmanuel Macron accueille aujourd'hui le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il commémore ce matin la rafle du Veldiv, 75 ans après. Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs avaient été arrêtés à la demande des nazis, puis emmenés dans les camps du Loiret. Moins d'une centaine ont survécu. C'est la première fois qu'un dirigeant israélien assiste à cette cérémonie. Des centaines de milliers de personnes rassemblées hier dans toute la Turquie pour commémorer l'anniversaire de la tentative de coup d'État. C'était le 15 juillet 2016 et le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan en profite pour lancer de nouvelles purges. Le président a promis, je cite, d'arracher la tête des traîtres. Les ONG, elles, s'inquiètent. En tennis, Venus Williams renversée. Hier, l'américaine n'a pas réussi à conquérir un huitième titre à Wimbledon. Elle a été sèchement battue par l'espagnol Muguruza en finale. Aujourd'hui, place au maître des lieux, Roger Federer. Le Suisse affronte le Croate Marin Cilic.
Et puis le Tour de France, Théo.
Oui, l'Australien Matthews a remporté hier la 14e étape du Tour de France à Rodez. Une étape qui a réservé quelques surprises, Anthony Rimbaud.
On attendait la victoire d'un puncher. Eh bien, pas de surprise. À l'arrivée, c'est bien un puncher qui s'impose. L'Australien Michael Matthews. Il remporte le sprint des costauds au sommet de la côte de Saint-Pierre à Rodez. Une rampe finale de 600 mètres à près de 10%. L'Australien, coureur passe-partout, savoure sa victoire. D'autant que c'est la deuxième en deux jours pour son équipe Sunweb après celle du Français Warren Barguil.
Relieved, happy, amazed.
Soulagé, heureux, impressionné. En fait, je suis super content de remporter cette victoire pour l'équipe. On a beaucoup travaillé depuis le début du tour. Là, ça fait deux de suite. On n'aurait pas pu imaginer deux jours aussi réussis.
Mais tout n'était pas écrit. On a quand même été surpris à Rodez. Ça s'est passé juste derrière le sprint des punchers. Fabio Aru, en jaune au départ à Blagnac, s'est fait piéger dans la montée finale. L'Italien perd très gros. Il doit rendre son maillot de leader.
J'étais un peu trop derrière, il y a eu un trou et l'effort était trop grand pour recoller. C'est arrivé à moi aujourd'hui, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre.
Et le maillot jaune, c'est Chris Froome qui le récupère. Vigilant et bien placé avant l'emballage final, le Britannique reprend 24 secondes à Fabio Aru. Froome en jaune, ce n'est pas forcément surprenant, mais le double tenant du titre ne s'attendait pas à récupérer sa tunique à Rodez.
C'est une grosse surprise pour nous que j'avais repris le maillot. Je n'avais pas penser qu'on peut trouver les différences de 20-25 secondes entre les gros favoris sur une étape comme ça.
Le premier du classement change, mais rassurez-vous, le suspense reste entier. Froome possède 18 secondes d'avance sur Aru, 23 secondes d'avance seulement sur le Français Bardet avant une étape de moyenne montagne aujourd'hui entre les Sacs et Vérac-l'Église et le Puy-en-Velay. Jean-François Bernard, consultant France Bleu sur le Tour, verrait bien un tous contre Froome.
Les Bardet, les Ouran doivent tenter quelque chose parce que pour l'instant il a le maillot, il faut le faire parce qu'on va se rapprocher de Paris, mais là il est très fort.
Et Romain Bardet aura un avantage sur les autres, il arrive dans sa région aujourd'hui.
Ah oui, le Tour arrive dans le Massif Central, départ de cette 15e étape à 13h10.
Jusqu'à 9h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions. 02 99 67 35 35.
Michel, Germain, Marianne sont en ligne. On commence par Michel qui nous appelle de Pleurtuy. Bonjour Michel, votre question.
Bonjour. J'ai semé des haricots il y a un mois. J'ai dû en ressemer après et rien n'est jamais sorti. J'ai jamais vu ça. Je voudrais savoir comment ça se fait.
Ah, Philippe, vous avez une explication ?
Alors, il peut y avoir tout un tas d'explications. Il y a malheureusement dans les jardins tout un tas de bébêtes qui adorent soit les haricots en tant qu'aliment, soit en tant que jeu. Les pigeons, par exemple, détestent les haricots en tant qu'aliment. Par contre, ils jouent beaucoup avec parce qu'ils se disent tiens, c'est peut-être des petits pois. Ils vont voir, ils s'aperçoivent que c'est pas des petits pois, donc ils les jettent à droite, à gauche.
Oui, mais j'avais mis des filets, vous savez.
D'accord, là, ça, donc, ça élimine les oiseaux. Et du coup, là, il nous reste la jante trotte menue, comme dirait l'autre. les petits mulots, les petits campagnols, les petites bébêtes comme ça qui adorent, elles, par contre, les haricots. Alors, pour peu que vous ayez une belle colonie, ou alors qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu d'autre chose dans le jardin qui fait que ils avaient la dent, hein, et ils ont eu la dent contre vos haricots. Donc, ça peut expliquer.
Mais j'ai mis des pièges pour voir s'il y avait des mulots, j'en ai pas. Et en plus, j'ai des voisins qui ont des chats, donc depuis un bon moment, je vois plus de mulots dans le jardin, donc je comprends pas.
Non, bah écoutez, moi j'ai pas d'autre solution à vous proposer. Maintenant, vous pouvez peut-être installer une caméra, une petite webcam. Il y en a qui coûtent pas cher et puis qui font dans l'infrarouge. Ça vous permettra de voir qui ose manger vos haricots pendant la nuit. Mais ça marche bien. Hein. En plus, j'ai l'air de plaisanter. Et ça marche très bien, ce genre de...
Non, mais je me suis demandé si j'avais pas mis trop de fumier de cheval en automne.
Alors ça par contre, ne mettez jamais, mais alors j'étais jamais, hein, de fumier l'année précédant une culture de haricots, de petits pois, d'ail, d'oignons, d'échalotes.
Ah d'accord. D'accord. Là, j'ai mis pour mes échalotes, j'en avais pas mis parce que je sais que là, il faut pas en mettre, mais je ne savais pas pour les haricots.
Les haricots, les petits pois, les fèves, évidemment, donc toute la famille des fabacées, et puis toute la famille, ex-famille des aliacées, donc ail, oignon, échalote, ciboulette, cive de Saint-Jacques, etc., etc. Tout ça, ce sont des plantes qui détestent la matière organique fraîche. Donc là, oui, effectivement, ça peut être une explication.
Ah, bah, je crois que j'ai l'explication, alors.
Bon, et ben voilà. Tant mieux.
Merci beaucoup.
Bon dimanche à vous.
Merci Michel, bon dimanche, au revoir. Germaine nous appelle de Cornu, bonjour Germaine. Hop, Germaine, si vous pouvez baisser la radio, parce que là, ça va faire... On va faire kermesse, là. Hein. Hop, allô.
Allô.
Oui, est-ce que vous pouvez baisser votre radio? Oh là 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 là.
Oh là là, oui, oui. Je m'en vais.
Bon, attendez, là. Oui. Bon, on y va, votre question.
Oui, c'est pour au sujet des courgettes, monsieur Meunier.
Oui. Dites-moi tout.
J'ai des courgettes, j'ai des fleurs, et quand elles sont bien fleuries, elles tombent et dessèchent.
Alors, que se passe-t-il, monsieur Meunier ?
Je ne sais pas.
Eh bien, il se passe certainement que les bourdons ne viennent pas polliniser les fleurs pour des raisons que j'ignore. Alors après, il y a plein de raisons pour lesquelles les bourdons ne viennent pas travailler. Et dans ce cas-là, le mieux, l'idéal, le plus simple, c'est de le faire soi-même. Hein. Si on ne peut plus faire confiance aux autres, faut faire le boulot soi-même. Donc vous prenez en général la floraison des fleurs mâles et femelles. Il faut bien repérer qu'il y a deux types de fleurs différentes dans les courgettes. Il y a les fleurs mâles qui sont en général relativement verticales, les fleurs femelles qui sont en général plus cachées sous le feuillage. Donc on va récolter le pollen avec un petit pinceau sur la fleur mâle et on va badigeonner le pistil de la fleur femelle. Ça marche très très bien, c'est très facile à faire, ça prend quelques secondes par fleur. Ça se fait grosso modo entre 10h et midi qui est l'heure de floraison des courgettes et ça permet de pallier aux carences ou aux oublis des bourdons.
Voilà, Germaine, en espérant que vous ayez la solution pour chasser ces coquins de bourdon. Nous accueillons Marie-Annick.
Ah, faut pas les chasser.
Non, bien sûr, les écarter. Autant pour moi. En le disant, j'ai dit hop. en les écartant. Le terme est plus approprié, hein, Philippe. Marie-Annick nous appelle d'Épignac. Bonjour, Marie-Annick.
Bonjour.
Votre question, Marie-Annick.
Eh bien, je crois que c'est la même question que la personne qui vient de me précéder. C'est la deuxième année que je mets quelques pieds de courgettes parce que j'ai un tout petit jardinet. Et alors, c'est la même chose, j'ai des belles fleurs, mais voilà, elles avortent à la fin de la journée et je n'ai pas de légumes.
Mais bon, c'est votre radio, s'il vous plaît, Marianne.
Oui, oui.
Oui.
Alors, voilà.
On peut même la couper, c'est pas plus mal.
Voilà.
C'est mieux comme ça.
Ah oui, tout d'un coup, on s'entend mieux.
Vous avez entendu. J'ai des pieds de poivrons, j'ai des petites pommes de terre, j'ai des haricots verts qui sont en fleurs, mais voilà, j'ai toujours le même problème avec mes courgettes.
Alors toutes les autres plantes, hein, que ce soit les poivrons, que ce soit les haricots verts, ils se débrouillent tout seuls, ils sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'ils s'auto-fécondent. Par contre, pour les courgettes, pour toute la famille des cucurbitacées, il faut absolument une fleur mâle, une fleur femelle. Donc, si vous avez donc les deux, sur chaque pied de courgette, vous avez les deux fleurs, les deux types de fleurs. Il faut d'abord prendre le temps de bien les regarder et bien les apprendre la différence entre les deux. Et dès que vous avez bien vu la différence, je vous dis en général, la femelle mâle, on la voit tout de suite parce qu'elle est devant, elle est sous les yeux, elle est bien en évidence pour que justement les bourdons viennent et viennent se s'enduire du pollen. Les fleurs femelles sont en général un peu plus cachées sous le feuillage. Donc, et on reconnaît bien la fleur femelle parce qu'à la base de la fleur, il y a la forme du futur fruit, hein, l'ovaire qui va se transformer ensuite en fruit après pollinisation.
Oui, parce qu'il y a des tout petits légumes qui sont gros. Voilà. Enfin, j'en ai deux sortes, des ronds, des longues.
Voilà, et ben voilà. Donc vous voyez bien la différence de fleurs. Donc une fois que vous avez mis du pollen sur votre petit pinceau sur les fleurs mâles, et bien vous allez sur vos fleurs femelles et vous allez leur caresser le pistil avec ce pollen. Ça va polliniser. Donc avec grosso modo un coup de pinceau, une fleur mâle, on arrive à polliniser 3, 4, 5 maxi fleurs femelles. Ça marche, je vous dis, ça marche vraiment bien. Et c'est la seule solution d'ailleurs pour faire des graines dont vous soyez sûr de la provenance. Parce que quand les bourdons viennent, le bourdon, il peut aller sur le potimarron de votre voisin pour polliniser votre potiron rouge d'étampe. Ou alors il peut venir sur votre courgette ronde de Nice pour aller polliniser ensuite la courgette, je ne sais pas quoi. Italienne de votre voisin d'à côté. Donc effectivement, il peut y avoir des mélanges. L'avantage quand vous faites avec le pinceau, c'est que vous êtes sûr que c'est parfaitement la variété, l'espèce et la variété que vous avez dans le jardin, celle que vous voulez reproduire si elle est belle et qu'elle est productive. Et donc ça vous permet d'être sûr de la qualité de vos graines.
Bon, voilà, Marie-Annick.
Je vais essayer, puisque c'est la deuxième année que ça se produit. Donc,
C'est rigolo. Je vous dis, ça se passe entre 10h et midi, hein, l'ouverture des fleurs. La seule chose, c'est que l'idéal, c'est de faire le soir, la veille au soir, de repérer les fleurs qui vont s'ouvrir. On voit bien comment ça à s'ouvrir. Donc, on sait exactement où elles sont. Vous repérez les fleurs mâles, les fleurs femelles, c'est assez facile. Et comme ça, dès le, je vous dis, 10h à peu près, vous êtes avec votre petit pinceau, vous récoltez et vous pollinisez. Ça dure quelques minutes à peine, c'est rigolo à faire et ça marche bien, très bien.
Voilà, Marie-Annick. Très bon dimanche à vous. On accueille avant les informations Daniel qui nous appelle de Saint-Brieuc. Bonjour Daniel. Daniel n'est plus là normalement. Bonjour Daniel. Daniel a des tomates sur sa terrasse dans un bac. Elles noircissent. Comment faire pour y remédier, Philippe?
Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui noircit. Est-ce que ce sont les feuilles? Est-ce que ce sont les tiges? De quelle manière ça noircit? Alors, si c'est les tiges qui ont des taches noires, ça peut être de l'anthracnose, qui est une maladie très présente sur les tomates en général. Si c'est les feuilles qui dessèchent, bah, ça peut être le mildiou qui attaque. Et derrière, comme il fait relativement sec quand même cette année, ça permet, les feuilles dessèchent très très vite et ça noircit. Si c'est les tomates qui noircissent, c'est que la maladie du cul noir. Donc, dans ce cas-là, c'est un problème. Un, de fixation du calcium et deux, d'arrosage en accordéon. Un coup, on lui donne trop à boire et puis ensuite, on laisse le plant trop dessécher. Et ben, ce type d'arrosage-là, ça provoque une nécrose sur les tomates, donc on appelle la maladie du cul noir, joliment. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la tomate peut être noire, mais j'en voudrais un petit peu plus.
Et Daniel, on vous a retrouvé ou pas, Daniel? Non, elle est toujours pas là. Donc voilà. Et autre question qu'on a eue également, à quoi est due la grosseur? On voit de très très grosses tomates. C'est une variété ou c'est dû à la culture, Philippe?
Il y a beaucoup les variétés qui jouent. Il y a des tomates, en général, c'est dans toutes les. La famille des tomates steak, donc il y a les super steak, il y a le beefsteak, la super steak, etc. C'est des tomates très très grosses. Il y a aussi des tomates ananas qui peuvent être très très grosses. Il y a des tomates qui peuvent aller jusqu'à 1,5 kg, 2 kg une pièce.
D'accord.
Donc ça fait de la très grosse tomate qui, en général, sont très charnues. Ça fait des super bons coulis, mais pas très parfumés. Hein. Je trouve que le parfum n'est pas toujours là. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup de chair. Donc c'est des tomates très douce et ça fait des très jolis coulis très très agréables après pendant l'hiver pour se faire des petites une petite bolognaise par exemple
en passant. Philippe, on prend un petit café, le temps du journal, on se retrouve juste après. À tout de suite.
France Bleu.
Les 15 et 16 juillet, le Tour de France à la voile débarque à Arzon, au port du Crouestie, avec France Bleu Armorique. Embarquez pour le grand show nautique sur le port du Crouestie avec village gratuit, animation et un grand jeu pour gagner chaque jour une tablette. Plongez au cœur des régates grâce aux points courses sur écran géant et au grand show La Quotidienne de 15h30 à 16h30.
Le Tour de France à la voile à Arzon sur le port du Crouestie les 15 et 16 juillet. Plus d'infos sur francebleu.fr. Du lundi au vendredi, sur France Bleu Armorique, vous commencez votre matinée les pieds dans l'eau. De 9h à 10h, venez jouer avec nous aux cabines de la plage. Poussez une porte, une deuxième, puis une troisième et découvrez la chanson qui sonorise la cabine de la plage. Que vous soyez dans les terres ou en bord de mer, au travail ou les pieds dans le sable, le jeu des cabines de la plage n'attend que vous. Très bel été et surtout, bonne chance à tous.
Allô ?
Marie, il y a un appel de détresse.
Ok, j'arrive.
Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, que vous soyez au large ou sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Et vous, êtes-vous prêt à les soutenir ?
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
Et justement, nous prendrons la mer tout à l'heure. Après les infos de 9h, nous serons sur le Tamatea, dans le golfe du Morbihan. Il est 8h30, c'est l'heure du journal qui nous est présenté par Xavier Demagny.
Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes après une nuit de surveillance près d'Aix-en-Provence. On fait le point sur cet incendie le plus grave pour l'instant cet été. Et 75 ans après la rafle du Veldiv, commémoration aujourd'hui en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre israélien. Dans ce journal aussi, le Tour de France, Chris Froome qui récupère le maillot jaune. Et puis tiens, vous mettez combien de temps pour résoudre un Rubik's Cube? Quand on n'est pas spécialiste, ça peut en prendre du temps. Vous allez entendre des joueurs qui font ça en 8 secondes à peine. La météo ?
Avec du grand beau soleil, après les petites brumes matinales, nous aurons du soleil et des maximales qui atteindront 30 degrés à la Guerche cet après-midi. Il fera beau, il fera chaud.
Les flammes ont parcouru 750 hectares depuis hier dans les Bouches-du-Rhône. Plus gros incendie de l'été dans le département à l'ouest d'Aix-en-Provence, entre Aiguille et Saint-Cana. Saint-Cana, c'est là qu'une maison a été entièrement détruite, Thibault Maisonneuve.
Oui, une maison et un hangar entièrement détruits par les flammes. Heureusement, personne à l'intérieur. Des flammes qui sont également passées à quelques mètres à peine d'un hôtel-restaurant et d'un haras épargné grâce à un gros dispositif de sécurité. Un cheval a été blessé et a dû malheureusement être piqué. Précisons qu'il n'y a pas de blessés, mais plusieurs habitations ont été évacuées hier. À Aiguille, 42 personnes ont passé la nuit dans la salle communale. Des habitants qui ont pu regagner leur logement ce matin. Plusieurs foyers restaient relativement actifs ce matin dans le secteur d'Aiguille, justement, mais le feu est bien sous contrôle alors que le Mistral devrait beaucoup moins souffler ce matin. Des Canadairs ont repris leur rotation au lever du jour. 800 sapeurs-pompiers, mais également 250 engins restent mobilisés. Le trafic SNCF dans le sens Paris-Marseille a repris ce matin. Quant à l'origine de cet incendie, elle est inconnue. On sait qu'il est parti, cet incendie, en bord d'une route départementale à Saint-Cana vers 15h. Le maire de Saint-Cana qui évoquait la possibilité d'un mégot de cigarette jeté par la fenêtre d'une voiture, soit par accident, soit par malveillance.
Thibault Maisonneuve en direct d'Aix-en-Provence. On retrouve les images de cet incendie sur francebleu.fr. 3 autres incendies ont dû être maîtrisés hier par les pompiers des Bouches-du-Rhône. Par mesure de sécurité, 18 massifs sont interdits d'accès dans le département. Et puis dans l'Hérault aussi, 100 hectares sont partis en fumée hier. Dans le sud, il y aura encore du monde sur la route des vacances. C'est surtout sur le littoral méditerranéen et en Auvergne-Rhône-Alpes que ça coince aujourd'hui. Dans ces deux secteurs, bison futé, voie rouge dans le sens des retours. Les commémorations de la rafle du Veldiv ce matin à Paris en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est Emmanuel Macron qui va présider la cérémonie. 75 ans après, Paris se souvient donc de ces 13 000 personnes parquées au Vélodrome d'hiver avant d'être déportées. La rafle la plus massive jamais organisée en France, comme le souligne l'historien Serge Klarsfeld, est président de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France.
Une rafle organisée à Paris et dans la banlieue, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et une rafle qui ramène des milliers et des milliers, 13 000 personnes entassées soit aux Veldiv, soit à Drancy, et promises à la déportation. Et une rafle exécutée par la seule police française aux ordres du gouvernement de l'État français à Vichy et à la demande des Allemands qui ont exprimé leur volonté de les déporter. C'est donc une association de l'État français à la politique génocidaire allemande.
L'historien Serge Klarsfeld sur France Bleu, il sera ce matin à la cérémonie. Après le recadrage de cette semaine, il y aura le tête-à-tête. Le chef d'état-major des armées va rencontrer vendredi Emmanuel Macron. Cette semaine, le chef de l'État a mis les choses au clair avec le général De Villiers qui avait critiqué les restrictions du budget et du budget de la défense. Ce matin, Emmanuel Macron enfonce le clou dans le journal du dimanche. Si quelque chose oppose le chef d'état-major et le président, le chef d'état-major change. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin. 8h34, Chris Froome n'aime pas prêter ses affaires, en tout cas pas quand il s'agit du maillot jaune sur le Tour de France. Le triple vainqueur de la grande boucle récupère sa place de leader après une très grosse accélération à l'arrivée à Rodez hier. Et le Britannique compte bien se battre jusqu'au bout. David Bailsford, son manager avec l'équipe Sky.
Voilà, quoi, on se retrouve un jour. ça fait plaisir, en fait. Je pense qu'on a vu, c'est un des meilleurs coureurs de cette génération. Il ne faut jamais dire c'est terminé. Tous les grands champions sont comme ça. Ils sont durs, ils sont robustes. C'est intéressant, ça fait plaisir, en fait. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Tous les jours, il y a quelque chose qui change. Et je pense que tout le monde qui aime le vélo, on aime ça. Quoi. Et puis, pour les nerfs, peut-être que ce n'est pas super. Mais pour tous les spectateurs et la course et tout ça, j'espère que ça fait plaisir.
Le manager de l'équipe Sky et de Chris Froome, hier c'est l'Australien Michael Matthews qui l'a emporté à Rodez. Retour à la moyenne montagne aujourd'hui, arrivé au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Roger Federer a une finale d'un huitième titre à Wimbledon. Le Suisse affronte le Croate Marin Cilic cet après-midi. Bataille de record entre navigateurs, 4 jours, 11 heures et 10 minutes. Thomas Coville est passé sous la barre des 5 jours pour la traversée de l'Atlantique en solitaire. Il pulvérise le record établi il y a seulement 3 jours par Francis Joyon. C'est toujours assez bluffant, les championnats du monde de Rubik's Cube. Là, c'est une première en France. Et ça se termine ce soir à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Un millier de joueurs qui tentent de résoudre le plus vite possible ce maudit casse-tête coloré. Et Laurine Benjebria, les meilleurs, y arrivent en à peine quelques secondes.
À vos marques, prêts, cubez.
Je finis.
8 secondes pour résoudre un puzzle en cube. Ils sont plus d'un millier à s'affronter au Rubik's Cube aujourd'hui. Parmi eux, Thomas, joueur depuis maintenant 7 ans.
Quand il est mélangé, toutes les couleurs sont dans le désordre. Et après, il faut faire les 6 faces avec la bonne couleur.
Et pour résoudre ce casse-tête, Raphaël, 13 ans, s'entraîne une heure tous les jours.
On apprend des formules et après, on essaie d'aller de plus en plus vite avec. Après, on s'entraîne pendant des mois, au fur et à mesure, en fait, qu'on s'améliore.
Mais aujourd'hui, c'est en tant que spectateur qu'il est venu accompagné de sa grand-mère, Marie-Thérèse, pas vraiment adepte du jeu.
J'y arrive pas. Impossible. Ça tourne dans tous les sens. De toute façon, non, ça me prend la tête. J'arrête.
Mais elle s'est tout de même installée au premier rang, tout comme Thomas, excité d'assister à son premier mondial.
Ça permet de voir les meilleurs du monde et qu'on n'a pas l'occasion de voir, sauf en vidéo. Donc c'est assez impressionnant. Ouais.
D'autant plus que parmi les 18 épreuves, certaines sont assez originales. Nina Tissier en supervise quelques-unes.
À deux mains, à une main, avec les pieds. Et après, on décline les cubes en 2, 4, 5, 6, 7 rangées. Et après, on change les formes aussi.
Des épreuves démoniaques qui se termineront ce soir avec une finale particulière. Les joueurs reprendront le cube classique mais devront le résoudre avec les yeux bandés.
Ça, c'est pas facile. Allez, si vous avez un Rubik's Cube sous la main à la maison, à vous de relever le défi 8 secondes.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.
À 8h37 sur France Bleu, quel temps pour aujourd'hui ?
Nous commençons cette journée avec de la grisaille brumeuse qui circule ce matin au nord sur la ligne Penthièvre, de Penthièvre jusqu'aux collines de Fougères, en donnant quelques crachins. En allant vers le sud, eh bien, les éclaircies s'améliorent cet après-midi. Ces éclaircies vont se généraliser à toutes les régions, même en bordure de Manche où les nuages vont rester quand même dominants. Le vent sera faible de nord, il deviendra modéré cet après-midi. De la douceur relevée ce matin avec 13 à 15 degrés pour les minimales et on attend pour les maximales de cet après-midi 22 degrés à Saint-Brieuc, 28 à Rennes-Vannes, 29 degrés à Quiberon et 30 degrés à La Guerche.
La météo avec Murprotec Bretagne, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur www.murprotec.fr.
Cette journée est classée orange avec le retour de ce week-end du 14 juillet. Vous serez très nombreux également à prendre la direction des côtes, donc de la mer. Soyez prudents si vous êtes sur la route et si vous êtes témoin de problèmes concernant la circulation. Vous nous le faites savoir au 02 99 67 35 35. On fait la route ensemble sur France Bleu Armorique.
Jusqu'à 9h, mettez-vous au vert. C'est Jardin Bleu avec Philippe Munier.
Nous parlons de jardin, de jardinage, de fleurs, de belles choses, tout ce que peut contenir un jardin jusqu'à 9h, grâce au Jardin Bleu et Philippe Munier sur France Bleu Armorique.
Jusqu'à 9h sur France Bleu Armorique, notre expert jardin est là pour vous.
Et tout de suite, nous accueillons Marguerite qui nous appelle de Saint-Malo. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Ça va Marguerite, bien réveillée?
Ah oui, ça va.
Bon, votre...
Je suis tombée du lit, c'est tout.
Ah bon, vous n'êtes pas tombée de trop?
Non, non, non.
D'accord. Votre question, Marguerite?
Ah ben la question, c'est que je ne retrouve plus le mot, mais ça ne fait rien. Ah. J'ai fait couper des sapins qui étaient morts, et, enfin pas morts, mais enfin presque, et qui étaient mangés par le lierre. Et donc, j'ai gardé tout ce qu'il aboyait pour mettre ça dans mon jardin. Et d'un autre côté, j'ai fait abattre des arbres, des branches d'érable et de bouleau. Mmh. Donc, ça, j'ai mis ça dans deux tas différents. Et je voudrais savoir à qui je peux mettre tous ces trucs-là.
Ah, vous en séparez.
Comment ?
Pour les enlever, pour les débarrasser.
Non, pas pour les débarrasser, parce que j'ai voulu les garder pour savoir si je pouvais mettre soit au rosier ou à d'autres cultures.
Philippe.
Oui, vous avez eu tout à fait raison. Et d'une part de les garder, d'autre part de les séparer. C'était une très très bonne idée. Alors tout ce qui est conifères, cyprès, les landis, ce que vous appelez les sapins, je pense, ce sont donc des conifères. Sachant que les conifères font des très mauvais humus.
C'est des sapins, du sapin tout simple, puis quelqu'un mangé par le lierre et qui commençait à dire au revoir, alors je l'ai fait abattre, il m'a emmené, il a laissé que les troncs, quoi, parce que tout le reste, il aboyait ça.
C'est très bien, c'est une bonne idée. Mais oui. sachant que ça fait d'une part des humus de mauvaise qualité, mais c'est pas grave, et acide, mais c'est pas grave parce que ça tombe bien, ce sont les humus que toutes les plantes de terre de bruyère adorent. Donc que vous ayez des rhodos, des camélias, des pierrices, des bruyères tout bêtement, vous pouvez mettre ce broyat-là au pied de toutes ces plantes de terre de bruyère. De l'autre côté, vous avez donc du bois blanc, de l'érable et du peuplier, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est donc des bois blancs, c'est des bois qui ne contiennent pas de résine et qui ne contiennent pas de tanins. Donc, ce sont des très bons bois pour faire du paillage au pied de quasiment tout le reste du jardin, c'est-à-dire, comme vous parliez des rosiers, mais ça peut être aussi au potager, ça peut être au pied dans vos massifs de plantes vivaces, il y a aucun problème, vous pouvez mettre ces bois blancs, et au contraire, ça va améliorer le sol, ça va couvrir le sol, ça va garder l'humidité, mais ça va aussi, en se dégradant, ça va améliorer le sol de votre jardin. Donc, très, très, très bien, très bonne idée, très bonne initiative d'une part de garder le bois, mais en plus de le séparer, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a des utilisations différentes aux différents bois.
Voilà Marguerite, comme quoi chaque chose a une utilité bien précise dans le jardin. Nous accueillons Yvette qui nous appelle de Fougères. Bonjour Yvette.
Oui, bonjour toute l'équipe, bonjour Philippe Meunier et toute son équipe.
Bonjour.
Voilà, ce que je voudrais savoir, je voudrais planter en ligne un camélia, un hortensia. Je voudrais savoir quelle distance vous laissez entre chaque pied.
Alors, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de quelle est la variété de camélia et quelle est la variété d'hortensia. Sachant quand même que le camélia, ça peut être un arbre, ça peut devenir très grand. Donc, il faut vraiment être sûr de la variété si vous voulez pas que le camélia tue l'hortensia dans quelques jours ou dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, il faut faire très attention. Ce type d'association ne me paraît pas très judicieuse. Il vaut mieux faire un rang de camélias, donc qui vont pousser relativement haut, ça peut monter un petit camélia, ça monte quand même à 2-3 mètres, un grand camélia, ça peut monter à 6-7 mètres, donc il faut faire attention.
C'est des camélias hauts, très hauts, je sais.
Ah oui, bah justement, si vous avez des camélias très hauts et que vous mettez à côté un hortensia qui, lui, va rester relativement bas, parce qu'un hortensia, ça monte au maximum, un hortensia, donc un macrophylla, ça monte à quoi ? De 2 mètres à tout casser. Un panicula, ça peut monter un petit peu plus haut, vers 3,50 mètres, 4 mètres maxi, mais ça ne va jamais très haut. Donc si vous mettez sur le même rang l'un et l'autre, soit ça va être un rang très lâche et ça ne va pas être très, très,
très joli,
agréable à l'œil, et puis, et soit vous les serrez, dans ce cas-là, le camélia va systématiquement faire tuer l'hortensia. Donc moi, je pense qu'il est préférable de faire un rang de camélias et devant le rang de camélias, bien orienté nord-ouest, de mettre un rang d'hortensia. Et comme tout le monde aime bien un sol humifère, bah vous paillez tout ça allègrement, comme on vient de le dire avec l'auditrice précédente.
Ah oui, c'est pas bête ça.
Voilà.
Parce que vous voyez ce que je me pensais dans ma tête, je disais, le camélia, il sera fleuri l'hiver, l'hortensia l'été, vous voyez.
Oui, oui, non, mais là, à ce niveau-là, c'est assez astucieux,
oui,
mais par contre, faites en deux rangs, à mon avis, ce sera beaucoup mieux et pour l'entretien et pour l'esthétique.
Mal. Voilà, Yvette.
Et combien je laisse entre chaque pied?
Eh bien, j'en reviens toujours à mon problème. Si je ne sais pas la variété exacte, je ne peux pas vous donner, parce que je vous dis, ça dépend complètement de la taille adulte de chacun des arbres. Donc, si vous ne connaissez pas les variétés, il faut vous renseigner pour vraiment connaître.
Les hortensias, c'est des hortensias d'ici, là. Je ne sais pas comment...
Ouais. Alors, grosso modo, les camélias, laissez-leur... faut bien laisser 4-5 mètres hein, entre deux hortensias, quitte à mettre des plantes pendant 2-3 ans, le temps qu'ils prennent du volume, à mettre des plantes, des plantes un petit peu qui des plantes de ce qu'on appelle des plantes de bourrage. C'est pas très joli comme mot, mais c'est complètement le sens de la chose. Il existe un certain nombre de plantes de grand développement qui sont soit des vivaces assez faciles à enlever, soit des annuelles qui font de l'effet le temps que les arbres ou les arbustes qu'on a plantés, eux, aient le temps de se développer, de bien s'enraciner. Donc on peut faire ça. Et donc pour les camélias, tous les 4 mètres, et puis pour les hortensias, 1 mètre suivant les hortensias, je dirais que 1 mètre 50 à 2 mètres, c'est pas mal.
Merci Philippe pour ces précision. Dans quelques petites minutes, nous accueillons Étienne qui nous appelle de Léon, mais avant cela, ce sera Eliane qui nous appelle de Léon, mais avant cela, les titres du journal.
Partageons le tour avec Radio France.
Cet été, pour la première fois depuis 25 ans, le Tour traverse les 5 massifs montagneux de l'Hexagone.
Les Vosges, puis le Jura, les Pyrénées et le Massif Central, et pour finir les Alpes. 23 ascensions au total, avec un point culminant à 2642 mètres pour le passage au col du Galibier. Un vrai concours d'escalade.
Le Tour de France avec Vittel, au officiel du Tour de France.
Le Tour de France du 1er au 23 juillet, avec Radio France.
France Bleu Armorique, on est bien ensemble.
Un peu plus de 9h moins le quart, Théo Hetch, les titres du journal.
Thomas Coville, le skipper breton, a battu hier le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. 4 jours, 11 heures et 10 minutes. C'est le premier marin à passer sous la barre des 5 jours. Ils n'ont pas le palmarès de Thomas Coville, mais ils ont son âge, au moins la quarantaine. Plus de 150 skippers prennent le départ aujourd'hui de la Transquadra, une régate transatlantique réservée aux plus de 40 ans. Vous avez aimé le beau temps d'hier, vous allez adorer la météo d'aujourd'hui. Du beau, du chaud, et du coup tout le monde sur les serviettes à la plage. On ira mettre les pieds dans l'eau tout près de Saint-Malo. La chaleur qui n'arrange pas les pompiers, ils luttent dans le sud-est contre de gros incendies. 750 hectares de végétation sont partis en fumée. 800 pompiers sont toujours mobilisés. Chez nous, c'est plus modeste, mais également des départs de feu. Plusieurs hectares de récoltes ont brûlé hier près de Rennes ou encore à Janzé. Et puis les GIs sont chez nous. On va replonger dans l'histoire à 9h. À Saint-Gilles, près de Rennes, des centaines de personnes reconstituent un campement américain des années 40.
France Bleu.
Jusqu'à 9h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions. 02 99 67 35 35.
Eliane nous appelle de Léon, il y aura Nicole de Dol de Bretagne et Joseph qui nous appellera, lui, de Merdrignac. Et Eliane, bonjour, votre question, Eliane.
Bonjour à tous les deux. Alors ma question, moi, c'est une question double en quelque sorte. J'ai dans un endroit un camélia, et un peu plus loin, une rangée d'hortensias. Et entre les deux, j'ai mis du muguet. Et à un autre endroit, j'ai entre un choisia Sundance et un pommier, un grand espace dans lequel une voisine m'a donné des primes verts. Tout ça envahit les dessous. Et je me demande, que ce soit le muguet ou que ce soit les primes verts, ça envahit dessous. Et j'ai beau les enlever, j'ai peur que ça nuise à mes arbustes. Mon pommier commence à, cette année, perdre toutes ses petites pommes. Je me demande si ça n'enlève pas toute la nourriture de mes arbres et de mes arbustes. Qu'en pensez-vous, Philippe?
Alors moi, je pense que non.
Non,
Je pense que c'est... Non, les hortensias, que ce soit les hortensias, que ce soit les camélias, que ce soit le choisia, donc Sundance, cette variété à feuillage doré qui est très très jolie.
Très
lumineuse. Un petit, bah oui, il se développe bien. Il aime bien les terres bretonnes, il aime bien le climat breton et il fait des très très jolies touffes. Hein, et puis c'est très très lumineux, ce jaune pâle.
J'ai
très
les deux
lumineux.
D'ailleurs, j'ai le Sundance et puis le Ternata.
Voilà, d'accord. Donc, toutes ces plantes-là, elles ont des enracinements suffisamment profonds pour pouvoir accepter sans aucun problème à la surface des plantes couvrantes, au contraire. Et c'est d'avoir du muguet ou des primes verts qui sont des plantes de sous-bois, normalement, c'est une super idée. Hein. C'est très, très bien, moi. Il n'y a aucun problème. Et je pense que... Alors, par contre, derrière, c'est vrai que le pommier, c'est peut-être un petit peu moins une bonne idée. Hein.
Surtout qu'à gauche du pommier, j'ai un... Comment ça s'appelle, déjà, qui fait des boules rouges l'hiver pour les oiseaux.
Il y a plein de boules rouges, ça peut être des houes, ça peut être du sorbier des oiseleurs, ça peut être...
Non,
ça peut être
c'est plein un cotonnet aster franquetus.
D'accord, voilà.
Ça me revient. Celui-là, il est tout près aussi, puis il monte en dessous des branches du pommier. On met toujours ça trop près.
On a toujours tendance à planter serré, mais c'est pas grave. Il faut pas avoir peur de retirer après. Hein, donc,
d'accord, mais celui-là, il est plutôt grand à retirer.
Ouais. Alors en plus, le problème du cotonnet aster, c'est que c'est quand même un cousin du pommier. Ils sont de la même famille, donc ils ont à peu près les mêmes besoins et en plus, ils ont les mêmes maladies. Donc le gros problème du cotonnet aster, c'est qu'il peut apporter des maladies au pommier. Et quand vous disiez que votre pommier avait petites pommes qui tombent, c'est normal parce que cette année, il y a eu tellement de fleurs que l'arbre ne peut pas faire tout faire gros. Toutes les pommes, donc il en tombe une partie, c'est pas du tout un problème. Par contre, faites attention, effectivement, le cotonnet aster, je vous dis, ça peut être une source de contamination de votre pommier. Donc, s'il y en a un enlevé, je pense que c'est le cotonnet aster.
D'accord, il est devenu tellement gros. Ça a beaucoup de racines, ça aussi.
Oui, ça va profond, oui. Donc, mais ça s'arrache, hein, je veux dire, il n'y a pas grand chose qui ne s'arrache pas.
Voilà, Eliane.
Il faut de l'huile de coude, c'est tout.
On vous souhaite donc beaucoup, beaucoup de courage. Merci à vous, Eliane de Léon. Nicole nous appelle de Dol de Bretagne. Bonjour, Nicole.
Bonjour, monsieur. Alors, moi, je voudrais savoir, s'il vous plaît, j'ai des lauriers fleurs qui ont 15 ans. Et l'année dernière, ils étaient tout abîmés, tout moches. Alors donc, je les ai dépotés n'importe comment. Il n'y avait même plus de terre. Il n'y avait que de la racine. Et puis, je les ai mis dans une brouette. Je me suis dit, c'est foutu. Je vais les foutre en l'air et puis c'est tout. Et puis, d'un seul coup, je me suis rendu compte, peut-être, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines après, il y avait plein de pousses qui venaient partout. J'ai dit, mais ils ne sont pas crevés. Alors, j'ai racheté des pots, des grands pots. Je les ai remis dedans. J'ai acheté du terreau pour plantes méditerranéennes. Et là, ils ont passé l'hiver sous ma la bois protégée et tout. Ils sont magnifiques. Mais ils ne font pas de fleurs. Comment se fait-il ?
Ah, écoutez, vous vous rendez compte quand même, vous les avez arrachés, vous les avez laissés traîner dans une brouette. Et tout d'un coup, vous voudriez qu'en plus, ils vous fassent des fleurs. Cette année, ils vous en veulent. Hein, ça, c'est clair, ils vous en veulent cette année. Et peut-être que du coup, le fait qu'ils repartent, vous avez peut-être été un petit peu trop généreuse dans votre terreau, peut-être mis un petit peu d'engrais, histoire d'être sûr qu'ils soient vraiment très, très beaux. Et plus on met d'engrais azoté, et moins on favorise les fleurs. Donc, je pense que les deux raisons sont là. Un, vous l'avez un petit peu maltraité quand même.
Ah oui, je l'ai maltraité, c'est vrai.
Deux, pour vous faire pardonner, vous lui avez donné un petit peu trop à manger. Donc au bout du compte, il se repose cette année. Par contre, l'année prochaine, un, mettez un peu moins d'engrais. Arrêtez tout engrais fin juin.
Hein, oui.
Mais pas d'engrais. Et on arrose très peu juillet-août. Hein, très, très peu. C'est ça qui va déclencher la floraison.
Moi, je les arrose beaucoup, là.
Oui, c'est une erreur. Voilà, on arrose bien en mars, avril, mai, juin. Et puis à partir de juillet-août, c'est la période où normalement, dans les pays méditerranéens, il fait très chaud.
Oui.
Donc on diminue les arrosages. Et le fait d'arrêter les engrais et de diminuer les arrosages, ça provoque le florissement. Donc vos arbres l'année prochaine, ils vont être tout beaux, couverts de fleurs. Et comme ça, vous serez contente d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour eux.
Je vous remercie beaucoup.
Merci, Nicole.
Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous les deux.
À vous également, Nicole. Bon dimanche.
Au revoir, monsieur. Merci.
On va terminer notre balade au Jardin Bleu en compagnie de Joseph, qui nous appelle de Merdrignac. Bonjour, Joseph.
Bonjour, messieurs. Et bonne journée.
Merci beaucoup. Votre question, Joseph.
Eh bien voilà, je suis adepte du greffage donc des arbres fruitiers. Et cette année, j'avais greffé des cerisiers. Ils ont bien pris, mais avec le gel et la glace d'un certain moment, là, tout est foutu. Alors j'ai entendu parler dans une précédente émission donc du greffage en été. Alors j'aimerais avoir quelques précisions.
Ah oui, effectivement.
Sur la date et la façon de greffer.
Alors, du coup, les rattrapages, si je puis dire, d'été, c'est... Alors, attendez, parce que du coup, ça tombe bien, j'ai sous les yeux mon petit... voilà, on était sur du cerisier. Donc, c'est septembre en août, c'est de soit greffe à l'anglaise, soit greffe en écusson. Voilà.
Oui.
Tout simplement, tout bête.
Greffe à l'anglaise.
Août et septembre, greffe anglaise ou greffe en écusson.
Parce qu'on ne peut pas pratiquer la greffe en fente ?
Ben non. Non, les greffes en fente, globalement, c'est vraiment des greffes de printemps. Hein. C'est vraiment février, ah oui, mars, avril, dernier quart. En général, les meilleures greffes de fin d'été, c'est l'écusson. Mais on peut, dans certains cas, faire soit des greffes en approche, soit du greffage à l'anglaise. Et donc, là, je suis un petit peu étonné, moi aussi, en voyant ça. Mais comme ce tableau-là, je sais qu'il est très sérieux, je vous le dis sans problème. Donc, septembre, greffe à l'anglaise. Mais avec du bois de l'année, évidemment. Hein.
Oui, d'accord, oui.
Voilà.
Jeune bois de l'année.
Voilà.
Oui, bien. Eh bien, je vous remercie.
Il n'y a plus qu'à attendre que l'été passe.
Bonne continuation dans l'émission.
Merci beaucoup, Joseph. À très bientôt. Philippe, un ouvrage peut-être, un livre sous un arbre fruitier dans le Jardin Bleu.
Oui, alors un petit ouvrage, parce que je pars du principe que quand on sait nommer les choses, en général, on les trouve plus intéressantes. Et très souvent, ben, on dit cochonnerie de bestiole, une sale bébête, mais on ne dit pas le nom de l'insecte. Alors, je vous propose ce petit guide entomo par Vincent Albouy, qui a l'avantage d'être et un entomologiste, donc un spécialiste des insectes, et un jardinier bio en plus. Donc, ça nous permet de découvrir un petit peu le nom et les intérêts ou le côté désagréable des insectes, mais au moins de leur donner un nom et de savoir qui fait quoi dans le jardin. Et donc, voilà, c'est le petit guide entomo, c'est observer et identifier les insectes, c'est de Vincent Albouy, avec des très jolies illustrations de comment il s'appelle, Gilbert, je crois, Audebert, et des photos de Vincent Albouy lui-même, et puis de je ne sais plus comment elle s'appelle, d'Alicia, je crois, Fouquette. C'est un petit livre aux éditions de la Chouinier-Sley, qui sont les spécialistes, je ne le rappellerai jamais assez, du guide nature. Ça coûte 19,90 pour à peu près 214 pages de plaisir et surtout de connaissances.
Voilà, et à lire dans le Jardin Bleu. Philippe, merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même adresse.
Avec plaisir.
Merci Philippe, bon dimanche. Au revoir.
Bonne journée.
La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins, c'est pas avec leurs promos travaux d'été qu'ils font percer. Et puis il y a La Paire qui enfonce le clou niveau promo.
Jusqu'au 7 août, c'est l'opération travaux d'été chez La Paire, avec par exemple jusqu'à 30% de remise sur une sélection de parois de douche.
Moins 30% sur les parois de douche. La Paire, évidemment, il n'y en a pas deux.
La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
Les Anglais, oui. À part les Beatles, les Stones, Kate Moss, les Monty Python, Pink Floyd, Blur, Oasis et la Reine, vous avez quoi?
Vous oubliez notre fish and chips.
Ouais.
Du 14 juillet au 20 août, l'été se met à l'heure anglaise sur Arte, dans Summer of Fish and Chips. Ce soir à 20h50, Good Morning England de Richard Curtis avec Philip Seymour Hoffman. Arte, ouverture permanente.
France Bleu Armorique, tous les jours avec vous.
Dans quelques petites minutes, nous retrouverons Théo Hetsch pour le journal de 9h. Et après 9h, eh bien, nous prendrons la mer sur un magnifique bateau. Il s'agit du Tamatea, un bateau en bois qui arrive de Cornouailles et qui nous amènera sur le golfe du Morbihan en compagnie de Pascal Février, notre capitaine. Très beau dimanche à toutes et tous. À l'écoute de France Bleu Armorique.